C'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Style FM, votre radio du Nord-Vienne avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier régional, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente dans la Vienne sur langélis.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente dans la Vienne sur mariemorin.fr.
Merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Style FM, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et je suis très heureux de vous retrouver eh bien la veille de notre départ pour le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez où vous pourrez nous suivre eh bien tout au long de la semaine sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook Chute on écoute la télé, sur nos applications bien sûr pour iPhone et Android également Chute on écoute la télé, ou encore notre site internet onécoutelatélé.com. Mais aujourd'hui on va vous évidemment vous proposer un programme de choix avec une spéciale du film Je ne rêve que de vous, consacré à l'histoire d'amour entre Jeanne Reichenbach et Léon Blum. Le film sort mercredi dans les salles. On va recevoir dans un tout petit instant le réalisateur Laurent Henneman et suivront eh bien Hippolyte Girardot et Elsa Zilberstein qui jouent les rôles principaux. Ils seront donc avec nous. On reparlera de la série Fête des Gosses sur France 2 avec Amel Chabi et Fred Testo qui jouent le couple dans la série. Eh bien, ils seront avec nous pour en parler. Un nouveau héros débarque sur France 2 vendredi à 21h05. C'est César Wagner sous les traits de Gilles Alma qui sera également notre invité. Et puis en fin d'émission, entretien exclusif avec celle qui a repris brillamment le rôle d'Émilie Debout. C'est Laurie Bordesoul qui sera avec nous. En plus, une Charentaise maritime, elle est Nouvelle-Aquitaine, donc on sera très heureux de partager ce moment avec elle. Mais on va tout de suite eh bien, faire un petit détour vers les audiences, non pas de la semaine dernière, mais de l'année dernière. On fait le bilan ensemble de l'année 2019. Et juste après, c'est notre spécial « Je ne rêve que de vous ».
Les tops et flops d'audience.
Et juste avant de démarrer notre spécial Je ne rêve que de vous, on va s'intéresser non pas aux audiences de la semaine dernière cette semaine, mais aux audiences de l'année dernière en 2019, avec TF1 qui est resté en tête de ces audiences malgré une part d'audience globale en repli, selon les données publiées donc dans une année télévisuelle marquée par la progression de France 2, le rachat de Gulli par M6 ou encore le rebond de Canal+ et une baisse de BFM TV. D'après les chiffres de Médiamétrie, la part d'audience de TF1, toute catégorie de téléspectateurs confondus, a reculé de 0,7% de part de marché à 19,5% au lieu de 20,2%, puisque depuis sa création en 1975, TF1 tombe ainsi en dessous de la barre des 20%. La chaîne a souffert notamment d'une base de comparaison défavorable après un cru 2018 porté par le Mondial et la victoire des Bleus, mais la filiale du groupe Bouygues domine toujours le podium et continue d'accaparer les meilleures audiences, comme l'illustrent les succès récents du Bazar de la Charité ou encore de Mask Singer, et c'est 85 des 100 meilleures audiences de l'année qui sont donc pour TF1. Suivent France 2 toujours en forme à 13,9% de part de marché avec plus 0,4 points et France 3 avec moins 0,1 point qui stagne et qui devance encore M6 qui baisse à 0,2 points de moins, 9,1% de part de marché en 2018 et 8,9% en 2019. Mais celle-ci vient de se renforcer en rachetant donc la chaîne pour enfants Gulli qui met en avant ses solides scores en soirée auprès du public féminin. Canal+, quant à elle, reprend des couleurs. La chaîne qui a noué plusieurs alliances stratégiques avec Netflix, Bein ou encore Disney+, revient en force dans le football et regagne 0,1 point à 1,3%. Et du côté des chaînes info, c'est BFM TV qui perd donc 0,3 point à 2,3% au lieu de 2,6. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences globales de l'année 2019.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, c'est notre deuxième coup de cœur cinéma de cette année 2020 que l'on va démarrer ensemble. Si dans un instant Hippolyte Girardot et Elsa Zilberstein vont venir nous rejoindre, nous allons commencer à tout de suite parler de Je ne rêve que de vous, le nouveau film de Laurent Henneman qui sort mercredi au cinéma. Et Laurent est justement avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et moi, j'ai trouvé fantastique de pouvoir voir ce film avant tout le monde. Il a été projeté au Festival du film francophone d'Angoulême en août dernier. Et j'ai découvert Petite histoire dans une grande histoire, très méconnue. Comment vous est venue l'idée de faire un film sur cette histoire de Jeanne Reichenbach?
Alors, en fait, je cherchais quelque chose depuis longtemps sur la résistance des femmes. Pourquoi ? Parce que la plupart des films où il y a des femmes résistantes ne parlaient pas de ce qui me touche le plus, c'est à savoir ce qui les animait. Le goût de la guerre, de la résistance, de l'aventure, les frémissements, tout ça, j'y crois pas. J'ai cherché un portrait de femme comme ça, qui soit de la résistance, mais à l'intérieur d'elle, quoi. C'est-à-dire, je cherchais depuis longtemps une histoire d'une femme qui résiste et dont la résistance est le moteur humain. Voilà, je cherchais ça en sachant comme on cherche un sujet. Et vous savez, quand on cherche un sujet, on ne trouve jamais. Je croise un ami qui me dit « Tu devrais lire un livre de Dominique Missica qui s'appelle « Je vous promets de revenir ». Tu devrais lire ce livre-là, ça correspond, c'est pour toi, c'est pour toi. » Je dis « Ah bon, alors je vais essayer de le trouver ». Il me dit « Ne le cherche pas, tu l'auras demain matin chez toi parce que j'ai demandé à Dominique Missica de t'en l'envoyer ». Voilà, donc c'était un type qui essayait de me manipuler, vous voyez. Et en fait, j'ai lu ce livre et j'ai senti qu'il y avait un portrait de femme formidable, à la fois parce que c'est une histoire incroyable d'une femme qui sacrifie tout pour l'amour d'un homme qui a 20 ans de plus qu'elle, et en plus de cela, c'est quelque chose où on se rend compte que cette femme, non seulement elle se sacrifie, mais en plus de ça, elle le sauve. C'est-à-dire que sa présence aux côtés de lui
l'aide à tenir.
Voilà. Et donc, le livre m'a absolument passionné. J'ai rencontré Dominique Missica. J'ai écrit un premier scénario. Ce que je fais toujours, c'est même avant d'entamer les choses, moi j'écris. J'écris quelque chose qui doit avoir quelque chose de conséquent, parce que écrire, ça aide à réfléchir, ça aide à travailler. Et donc, sans se dire que ce sera le scénario définitif, j'ai écrit. Au bout d'un moment, j'ai pensé que c'était bien. J'ai demandé à un ami cinéaste qui est Luc Béraud, qui était le scénariste de Claude Miller, qui est un grand ami à moi, je pouvais me donner un coup de main pour mettre un peu en question ce que j'avais écrit. Et quand j'ai eu ce petit premier gros paquet, j'ai invité Nelly Kavski à déjeuner, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et je lui ai raconté cette histoire, elle m'a dit on y va. Voilà.
Laurent, pour interpréter, il fallait une actrice... de talent, à la beauté un peu qui allait correspondre aussi à ces années-là, aux années 40. Et là, est-ce que Elsa s'est tout de suite mis dans votre tête?
Non, en vérité, ça s'est pas passé comme ça avec Elsa. C'est que je savais pas qui prendre. En fait, c'est un film, quand on l'a eu écrit, on a dit le rôle est formidable. Mais on n'avait pas d'idée. Franchement, j'étais un peu en panne d'idées. Et puis alors il y avait l'âge, il y avait la disponibilité, il y avait le culot d'y aller sur un rôle comme ça. Et petit à petit, l'idée d'Elsa... D'abord, et puis il y a des filles qui n'avaient pas envie de faire ça. Et puis alors l'idée d'Elsa est arrivée, mais c'est devenu petit à petit. Hein. C'était pas, je peux pas dire j'ai écrit ce film pour Elsa Zilberstein, c'est pas vrai. On a écrit un rôle. Et après, on a cherché, on a éliminé. Il y a des gens qui sont éliminés d'eux-mêmes parce qu'ils nous ont dit « c'est pas pour moi, c'est trop loin de moi », etc. Et c'est petit à petit que l'idée d'Elsa est venue.
En tout cas, le résultat est bluffant. On va en parler avec elle dans quelques minutes d'ailleurs, puisqu'elle va nous rejoindre avec Hippolyte Girardot. Le choix d'Hippolyte pour jouer le rôle de Léon Blum, pareil, comment il a été choisi?
Oh, écoutez, en fait, je cherchais... Et j'ai proposé le rôle à Jean-Pierre Darroussin. Et Jean-Pierre Darroussin m'a dit écoutez, je peux pas, je suis trop. Il faisait art au théâtre, je suis trop fatigué par le théâtre. Il faut que je voie mes enfants, il faut que je me repose, il faut que je me ressource. Donc cet été, je peux pas tourner. Voilà. Donc je suis désolé. Et puis 3 jours après, Hippolyte, avec qui j'avais déjà fait une télé, où je lui avais fait jouer Giscard d'Estaing, m'appelle, il me dit j'étais au théâtre hier voir Darroussin dans Art, il est vachement bien, puis alors on a dîné ensemble après, il m'a dit qu'il y avait un rôle pour moi dans ton film et que tu me l'avais pas proposé, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout, et je suis tombé des nues et je me suis dit mais c'est évident quoi, d'abord il avait le désir de le faire, de retravailler avec moi. Et je me dis mais comment n'y ai-je pas pensé quoi, c'est voilà. Et donc je lui dis écoute, je t'envoie le scénario. Et je préviens la productrice Il me dit, je vais l'appeler, tu vas voir. Voilà. Et voilà, c'est une évidence pour lui. Ça s'est passé comme ça.
Alors, c'est une histoire incroyable que vous allez voir. C'est vraiment un mélange d'historique, mais aussi une histoire d'amour absolument incroyable qui se passe pendant la guerre. Quelles sont les difficultés justement que l'on peut avoir alors même si Nelly effectivement a ce savoir-faire en production, mais en réalisation, comment on fait pour réaliser effectivement un film d'époque comme ça qui est censé se dérouler entre 40 et 45?
Bah d'abord, vous savez, maintenant le numérique nous aide beaucoup. Maintenant, on peut effacer les antennes de télé qui sont sur les toits. Maintenant, on peut effacer les gouttières qui ne sont pas d'époque. Donc déjà, l'apparition du numérique dans le monde du film d'époque, c'est une révolution.
Vous aider.
Ah, c'est une révolution. Pas que financière, mais aussi d'organisation. Parce que moi, j'ai fait un film dans la région de Bordeaux qui s'appelle Stella. En 1983, on tournait dans un village. Un film qui se passait en 1944. On tournait dans un village. Il fallait enlever toutes les antennes de télé. Ou les cacher. Donc ça demandait... C'est pas que de l'argent. C'est de la mobilisation, de l'organisation, de demande d'autorisation. Les gens, ça les amuse pas qu'on leur enlève leur antenne de télé, même pour une journée.
Une chose à moi que je trouve quasi essentielle, faut absolument montrer ce film aussi dans les écoles.
Ah oui.
Ah, bien d'accord.
Ah oui, mais est-ce qu'on... Oui. Enfin, il faut que les jeunes aillent le voir, quoi. C'est ça que je dirais. Parce que...
C'est le rôle de l'école de leur montrer, justement, parce qu'ils iront pas forcément d'eux-mêmes au cinéma. Et ça, pour moi, c'est vraiment typiquement le genre de film qu'il faut absolument montrer dans les écoles, de montrer à quel point justement il peut y avoir des histoires de courage, des histoires de femmes fortes dans ces années-là, pour faire aussi évoluer un peu les mentalités qui sont encore aujourd'hui malheureusement un peu rétrogrades.
Oui, alors moi n'importe comment, depuis que je fais des films, j'ai toujours, parce que je commence à me poser des questions sur ce que j'ai fait maintenant, au fond ce que j'aime c'est éveiller la curiosité, voilà, en fait c'est ça, mais même dans la vie, je me rends bien compte, je suis tout le temps en train de raconter des histoires aux gens, s'ils ne m'écoutent pas ça m'énerve, je veux leur raconter des histoires qu'ils ne connaissent pas. Et d'ailleurs, il y en a que j'enjolive beaucoup, j'exagère, je le fictionne. Et c'est quelque chose qui est en moi, c'est que je veux éveiller la curiosité. Et donc, sur le film d'histoire ou de la politique, comme j'ai fait, c'est un peu ça. C'est pas, je dis toujours aux gens, si vous voulez savoir quelque chose de vraiment complet sur mon film, là, sur Je ne rêve que de vous, si vous voulez, lisez le livre de Missika, ou lisez les livres sur Georges Mandel ou sur Léon Blum. Mais vous verrez un film, ça sera juste un film, mais ça vous serez ému et ça éveillera une curiosité vers des renseignements plus précis, une pédagogie peut-être mieux structurée, vous voyez. Et c'est ça que j'aimerais, c'est que les enfants voient le film pour ensuite, et puis maintenant ils ont les outils à disposition, ainsi un gamin voit mon film et puis rentre chez lui, puis il tape Wikipédia Georges Mandel, pour moi c'est gagné, quoi.
Allez, Elsa Lichtenstein et Hippolyte Girardot vont nous rejoindre dans un tout petit instant. Laurent, on va tout de suite écouter la bande-annonce. Je ne rêve que de vous, c'est mercredi au cinéma.
Je pars pas avec toi, je reste.
Qu'est-ce que vous voulez trouver?
Rien. Tout.
C'est vrai ce qu'on raconte sur tes rapports avec Léon Blum? Tu serais prête à tout laisser tomber pour suivre un vieux politicard?
Ah, vous êtes là.
Vous n'en faites qu'à votre tête.
Dans ma tête, il y a que vous.
La défaite qui se prépare va être terrible. Et on va me la faire payer très cher.
La police a cerné la propriété des Montel. Elles ont arrêté Monsieur Blum.
Mon beau-père a besoin de tout le monde pour tenir le coup.
Vous êtes mon ange gardien.
Je n'aime pas l'image que vous donnez.
Mais quelle image? Ça gêne qui?
Blum est parti.
Quoi? Comment ça parti?
Assigné au fort du Portalet.
Mais pourquoi? Mais c'est où? Vous avez compris pourquoi on vous a mis ici?
Pour nous humilier tous. Mandel, Reynaud, les autres.
Le procès actuel n'est plus le procès de la France.
Un jour, ça va finir, ce cauchemar.
Oui.
Mais il sera fatalement le procès de la République.
Je vous aime, Blum. Je vous aime.
Laurent Edman, que l'on va libérer, le programme est chargé à quelques jours de la sortie du film. On est à 2 jours de la sortie, là. Alors, dernière question avant de se quitter. Comment on se sent, là, avant qu'Elsa et Hippolyte arrivent?
Ça va, je suis content de la façon dont les gens voient le film. Je suis content de me retrouver avec mes acteurs, de partager encore les moments qu'on a bien vécu. Voilà, vous savez, faire un film, c'est pas toujours un plaisir. Là, ça en était un. C'était difficile et on a surmonté cette épreuve parce qu'on était animés par une espèce de passion les uns pour les autres qui a rendu le film possible, quoi. Cette passion-là me conforte aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, ça va, je craque pas, je suis pas angoissé, je tiens le coup, je prends pas de médicaments, tout va bien, je m'alimente normalement. Parce qu'il y a eu cette force entre nous et qui nous a donné à tous du courage et de la force.
En tout cas, le rendez-vous est pris, c'est mercredi au cinéma, je ne rêve que de vous. On va marquer une pause, on revient dans 3 minutes pour la suite de Chute, on écoute la télé spéciale cinéma avec Elsa Lieberstein et Hippolyte Girardot. Alors à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas, Chute, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
89.7 98.1 Style FM. Style FM. Deux fréquences pour une unique expérience.
Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seul, caché sous mon ombrelle. S'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je vais au pôle emploi. La morale à plat. Et je fais le mariole, parfois je démarre vite. J'en ai marre et très vite, je fais démarrer de suite. Dites-moi ce que vous en dites. Oh, dites-moi ce que vous en dites. Je suis en mode burn-out, est-ce qu'il faut que je te le répète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Je deviens encore plus belle. Je garde le sourire, paraît que la vie est belle. S'il te plaît, non, non, ne me mens pas. Oui, j'ai dit le mot pas. C'est bien trop pour moi. C'est bien trop pour moi. J'y crois, je donnerais tout sans rien garder sauf ta réalité. Je mourrais comme j'ai vécu, une fois le rideau tombé. L'idéal auquel je rêve, il n'a rien d'anormal. Par-delà le bien, le mal, le temps m'emportera. Comme une rose en cristal, vacille et perd tous ses pétales. Je veux faire briller ma vie comme l'éclat d'une étoile. Pardonne-moi le jour où je ne pourrai plus te parler. Pardonne-moi chaque moment.
FM 89.7 et 98.1.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on continue notre coup de cœur cinéma cette semaine. Et là, bien, on est bien heureux puisque viennent de nous rejoindre en ce début d'année. Eh bien, Elsa Zilberstein et Hippolyte Girardot qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonne année encore, on peut le dire, non?
Oui, on peut le dire.
Bonne année, bonne année.
Moi, je vous souhaite en tout cas une très très belle année 2020, pleine de tournages, pleine de surprises, et j'espère voilà que vous allez en avoir tout au long de cette année. Vous commencez très fort en tout cas, puisque mercredi, Je ne rêve que de vous, ce film de Laurent Henneman, un film qui aborde, on en parlait avec Laurent il y a quelques instants, une face assez cachée, oubliée, voire même méconnue de Léon Blum, qui a été quand même président de la République, il faut pas l'oublier. Comment vous êtes préparée à ce rôle de Jeanne Reichenbach, Elsa, déjà, pour commencer?
En fait, j'ai beaucoup lu, regardé, écouté, surtout lu, là, pour ce film-là. Je suis rentrée, comme je fais, à bras-le-corps, dans l'époque. J'ai lu le livre de Dominique Messica, dont est tiré le film. Et puis sur Internet, après j'ai regardé, j'ai cherché. Et après, c'est voilà, j'ai un travail intime et intérieur de travail d'actrice, de comment prendre cette héroïne qui aime follement, viscéralement, fougueusement, intimement, sans concession, un homme et qu'elle ne le lâchera pas. Et qu'elle est fidèle à elle-même depuis qu'elle a 16 ans. Elle a beau être mariée, au moment où la guerre éclate, elle décide de pas suivre son mari à New York qui voulait la protéger. Elle est juive et elle décide de rester quand même en France sans trop se rendre compte d'ailleurs du danger qu'elle encourt. Donc avec une certaine dose d'inconscience, elle décide uniquement, parce qu'elle n'est pas du tout politicienne, effectivement, de suivre cet homme à Buchenwald, qui vient d'être enfermé à Buchenwald. Donc elle va voir Laval et elle lui demande une dérogation pour être internée à Buchenwald.
Une véritable héroïne, je trouve, moi en ayant vu le film justement un petit peu avant tout le monde. Là c'est pareil, comment on se prépare à jouer un personnage comme celui de Léon Blum?
Moi c'est très différent d'Elsa dans la mesure où Léon Blum il est à la fois connu et très peu connu, c'est-à-dire qu'on a des images de lui, on a une figure, on a une sorte de dessin, une sorte d'esquisse de ce personnage, mais on ne sait pas très bien comment il bouge, on ne sait pas très bien comment il parle, il y a très 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 peu de documents, et alors dans l'inconscient collectif français, c'est juste une photo. Voilà, une photo dans les histoires de Terminal, quoi, à peu près. Et donc, j'ai essayé d'être très proche de ça, c'est-à-dire de pas essayer de fabriquer une sorte de Léon Blum que je n'aurais pas pu connaître, que j'aurais inventé de toutes pièces, en restant le plus sobre possible, en me servant énormément du déguisement, entre guillemets, la moustache, les lunettes, le chapeau, comme figure, enfin comme emblème du personnage. Et pour le reste, de vu ce qu'on racontait dans l'histoire, de raconter l'amour, quoi, de raconter l'amour de cet homme pour cette femme qu'il admire énormément pour son sacrifice, pour sa passion et
son courage.
Son courage et dont il goûte évidemment la sensualité extrême, quoi. Et on peut imaginer dans toutes ces épreuves, pour lui c'est une chance inouïe pour cet homme d'avoir ça. Ça lui donne une force et une tenue extraordinaire.
C'est justement certainement beaucoup grâce à Jeanne qu'il a survécu d'ailleurs, qui est devenu président de la République après la guerre 39-45.
Derrière chaque grand homme se cache une femme.
C'est vrai.
C'est vrai que tout d'un coup, il est censé être plus âgé qu'elle. Elle l'a connue petite. Ils ont plus de 20 ans d'écart, 25 ans d'écart. Je pense qu'il y a aussi la fougue de cette jeune femme qui lui donne de l'énergie, de l'amour. Quand elle le suit à Buchenwald, ils vont quand même se marier à Buchenwald.
Elle part quand même dans la gueule du loup pour ça.
Oui,
hein.
Oui, mais justement, je dis, il y a une vraie dose. Ouais. Je compare pas à Adèle H, mais des fois, j'aime bien comparer. Pour moi, il y avait une vraie dimension de folie d'une femme qui aime follement, sans retenue, sans calcul, avec une petite dimension de folie. C'est ça qui m'intéresse dans le rôle.
Comment ça se fait, à votre avis, que Léon Blum et ce destin de Jeanne Reichenbach soit aussi méconnu, soit aussi confidentiel finalement? Et heureusement que Laurent va faire un film comme ça, qui va, j'espère, en plus être montré au plus grand nombre, dans les écoles, etc., que ça puisse être montré vraiment à beaucoup de monde.
Bah, il faut que les gens aillent voir le film, c'est grâce à vous que vous pourrez faire un relais. Déjà, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Il y a une vraie histoire d'amour, romanesque, je pense que le public peut vraiment y adhérer. Et en plus, ils vont apprendre des choses.
Si vous demandez pourquoi on ne le sait pas davantage, c'est bien parce que la culture générale est une culture extrêmement misogyne et machiste quand même. On vit dans un pays extrêmement antiféministe au possible, à tous les niveaux, et donc qu'une femme soit aussi importante que ça pour un homme, même si elle n'écrit pas les discours qu'il est en train de prononcer, me paraît tout à fait c'est normal, quoi. On parle très très peu des femmes d'hommes politiques. Pour la plupart des gens, elles n'existent pas quand même.
Quel a été votre plus beau souvenir de tournage à tous les deux, Elsa?
Je sais pas, hein. Moi j'ai toujours du mal à en retenir un souvenir. C'est plutôt toutes les scènes fortes qu'on a vécues avec Hippolyte. On a des belles scènes, quoi. Il y a des scènes fortes.
Les costumes, ça, les décors, on plonge vraiment là.
Oui, mais ça, j'ai envie de dire non, parce que on met un manteau d'époque. C'est pas ça. C'est plus au niveau de l'intensité des émotions. Après, l'époque, elle est racontée par un décor. Moi, c'est pas ça qui me fait triper quand je prends un rôle. C'est la force universelle, intime d'un personnage. C'est plutôt ça, le côté irrépressible de cette femme qui aime cet homme, l'amour. Et comment elle va, tu vois, comment elle le suit dans toutes les prisons où elle va être internée, comment elle va... Voilà, il y a des scènes vraiment belles où elle attend des nouvelles. Il y a aussi Émilie Dequesne qui joue la belle-fille de Léon Blum. Le rapprochement avec Émilie Dequesne, comment tout d'un coup la belle-fille et la femme qui aime vont se retrouver, vont devenir amies. je trouve qu'il y avait plein de magnifiques scènes à jouer. Ce que j'aime surtout, c'est que c'était des personnages sur le fil. En tout cas, mon personnage, sur le fil des émotions. Elle est dans un moment intense de sa vie. Elle joue beaucoup. Elle a laissé toute sa famille à New York. Je dévoile pas l'intrigue, mais elle a des drames. Elle perd des gens qu'elle aime. Et elle pense à elle et à l'homme. Principalement, elle est prête à perdre la tête pour cet homme. Et ça, c'était vraiment génial à jouer.
Un amour sans concession. Voilà. Plus beau souvenir, Hippolyte ?
Moi, j'aime beaucoup les scènes où on est à plusieurs et on commence à parler de l'actualité du moment. Et puis, il arrive cette espèce d'alchimie du cinéma où on croit vraiment être à cette époque. Je me souviens d'une petite scène comme ça où tu montes dans la chambre, oh voilà, puis tu redescends et tu t'en vas. Et juste avant, on est en train de discuter, est-ce qu'on va aller ou pas au procès ? Est-ce qu'on va aller à Vichy ou pas ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et elle arrive. Et juste avant qu'on est entre nous en train de discuter, on est vraiment en train de se poser une question. J'ai l'impression vraiment qu'on va y aller vraiment. Et quand elle arrive et qu'elle décide de pas rester dans cet endroit, je suis très fâché parce que moi, je suis en pleine discussion. C'est pas le moment. Il y a quelque chose qui arrive. Parfois, dans certaines scènes, on est dedans, quoi. D'ailleurs, on pourrait continuer la scène très, très, très longtemps, parce qu'effectivement, quand on a lu, qu'on connaît un peu l'histoire, etc., on pourrait faire un débat politique. Tous les acteurs autour de moi étaient tout à fait capables d'engager une vraie scène politique avec des arguments. Donc ça, c'était assez marrant. Moi, j'aime bien quand on arrive à faire ça. Après, est-ce que ça passe ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on arrive à vivre ça, pour ça, moi, le cinéma, c'est magique pour moi.
Ouais, c'est vrai quand t'arrives à toucher comme ça du doigt un instant miraculeux que t'as l'impression, mais c'est au-delà de l'époque. L'époque, elle le raconte, mais nous, on est dans un truc vrai. Trouver la vérité au cinéma, c'est ça le plus important, en fait.
En tout cas, c'est une belle aventure que vous allez pouvoir suivre mercredi au cinéma, cette histoire d'amour, la petite histoire dans la grande, c'est Je ne rêve que de vous, le film de Laurent Hedman. C'est un des premiers films 2020 qu'il ne vous faut pas rater au cinéma, et moi j'espère en tout cas qu'il va être montré dans les écoles et voilà, qu'il va être vraiment montré.
Les gens qui ont envie de voir du cinéma fort, intense, lié à l'histoire, les gens qui aiment ça, ils seront heureux, je pense, vraiment.
Exactement, ouais. Ceux qui aiment les costumes, les histoires d'amour, l'histoire, etc., ils vont être servis, en tout cas.
Exactement.
Merci infiniment, en tout cas, à vous deux d'être venus nous en parler en ce début d'année. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle année 2020, encore une fois.
Oui, vous aussi, très bonne année 2020.
Très bonne année.
Il faut que vous quittiez la France.
Je préfère être en prison avec vous que libre sans vous.
Cette femme est irrépressible.
Vous voulez dire incontrôlable ?
Est-ce que vous voyez une fin à ce désastre ?
Votre détermination à prendre des risques force l'admiration.
Je suis liée à lui, c'est comme ça.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va continuer à parler de la série Fête des Gosses qui a débarqué la semaine dernière sur France 2. Et on va continuer à explorer un petit peu nos couples et nos familles qui sont avec nous toutes les semaines pendant ces 3 semaines de diffusion. Et cette semaine, on va s'attarder sur le triangle un peu amoureux d'Anissa, Serge et Clément avec les personnages. Et je suis très heureux de réaccueillir à nouveau Fred Testo avec moi, mais d'abord Amel Chabi, puisque c'est une première dans notre émission. Bonjour Amel.
Bonjour, je suis ravie d'être là et merci de nous avoir invités.
Avec grand plaisir. Fred, ça va ? On se retrouve ?
Ben oui, hein. Il faut dire que tu nous as toujours trimballé partout, dans ta voiture, à pied, par terre, chez toi. Maintenant, on est des habitués de l'émission. Hein.
Exactement, tu es un sociétaire de l'émission. Alors, pour la petite anecdote, tu étais venu présenter un film chez nous qui me tenait vraiment à cœur, qui s'appelait 2 heures de Paris. Et tu m'avais livré en exclusivité, justement, que cette série, tu allais la tourner au début de l'hiver et que tu allais nous proposer un peu le successeur de Fais pas ci, fais pas ça. Et il faut dire que voilà, après avoir vu les 2 premiers épisodes, j'ai pas été déçu. Hein.
Eh ben, écoute, tant mieux, parce que tu es un petit peu c'est toi qui as le tempo sur la France, hein. Si tu aimes quelque chose, ça marche derrière. Et là, on voit.
Généralement,
on
porte chance.
Ben voilà. Et en tout cas, là, tu nous as déjà porté chance, donc j'espère que ça va continuer comme ça.
Mais on n'en doute pas. Qu'est-ce qui vous a fait, accepter déjà le rôle d'Anissa, Amel? Toi qui viens, plutôt de la scène aussi, même si tu fais beaucoup de cinéma, tu fais beaucoup de one-woman show aussi.
Ouais. Alors, ce que j'ai adoré dans le scénario, c'est que Anissa est d'origine, marocaine ou algérienne, on ne sait pas trop, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on ne sait pas trop. Elle est médecin et c'est pas du tout axé sur ses origines, mais justement sur la vie quotidienne et sur une vie de femme de son époque avec des enfants. Et ça, j'ai adoré que ce soit axé sur quelque chose d'universel.
Si t'as plu toi chez Serge, Fred ?
C'est un rôle que j'avais pas eu la chance, un personnage que j'avais pas eu la chance d'explorer, justement, le côté famille recomposée, puisque moi j'ai eu une fille de mon côté avec mon ex, Valérie, dans la série. Amel a eu un enfant avec le personnage de Jonathan Lambert, donc on a deux filles à la maison qui cohabitent. Moi je suis plutôt quelqu'un, on va dire, d'impulsif, à l'inverse de son ex, Jonathan Lambert, qui était plutôt cérébral, intellectuel, posé, accompli. Moi je suis un peu plus brut, et en même temps, j'apprends à vivre dans cette nouvelle organisation de couple et de famille, et avec quand même un ex qui est très présent, parce que oui, en fait ils ne sont plus du tout ensemble, mais ils sont comme des amis, et ce qui est quand même très bizarre. Normalement, quand tu rencontres quelqu'un, alors déjà il y a l'histoire de la famille, il y a leur fille qui n'est pas ma fille, et en plus je dois gérer ma fille plus mon ex. Et
l'ex, hein, elle est envahissante aussi.
Ouais, l'ex est incroyable aussi. Et donc il y a tout ce petit mélange au milieu qui fait que les relations quotidiennes de famille, d'amitié, de père fille, enfin tout ça qui fait une ambiance un peu, enfin on va dire un personnage qui a une double facette. Je trouve on a tous un côté où c'est très drôle, mais en même temps ça peut être émouvant, émotionnellement même dur des fois. Enfin on passe de la comédie au drame, avec une petite frontière au milieu, et tout ça très sincère, très très cool en fait. On passe d'un moment à l'autre, et c'était agréable à jouer parce que j'avais pas eu encore la chance de faire ça. Et puis alors avec Amel, parlons de ma partenaire.
Ah mais c'est clair, Anissa, on va parler de ce personnage. Comment tu le définirais toi, Amel?
C'est quelqu'un de très organisé, très carré, qui veut absolument bien faire, qui a totalement, enfin qui est dans la communication. Enfin, elle ressemble vraiment à son métier, quoi, médecin, beaucoup d'études, donc très carré. Elle est très éloignée de son nouveau mari. Mais je pense qu'il fallait qu'elle ait un mari comme ça pour être heureuse. Et non, j'adore vraiment ce rôle. En plus, c'est la première fois que je joue dans une dramédie. Et comme disait Fred, il y a des moments très drôles, mais des moments d'émotion. Et je crois que c'est la première fois qu'on m'a donné l'occasion de pleurer pour de vrai, quoi. C'était extraordinaire parce que j'ai dû travailler en tant que comédienne. Enfin, le fait d'avoir une vraie émotion, des larmes, et c'est une première.
Mais en tout cas, c'est réussi parce que on y croit mort. Alors, cet ex, on va dire très très envahissante. Alors ça a démarré au clash, hein. Dans les deux premiers épisodes, on a vu ça a clashé quand même très très fort. Après, on ressent qu'Anissa a quand même d'un profond sentiment encore qui reste avec Clément. Il y a quelque chose de fort quand même qui reste entre eux malgré tout.
Oui, complètement.
Pas sans gêner Serge quand même.
Oui, mais je pense que le fait qu'il soit très envahissant, ça crée le ressort comique. Et effectivement, Anissa aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son ex, parce qu'ils ont un enfant ensemble. Je pense que s'il n'avait pas eu d'enfant, elle aurait fait une croix sur lui. Mais là, c'est tout pour sa fille, et elle veut encore une fois que tout se passe bien, qu'il y ait beaucoup de communication, et Clément est tout le temps là, ouais.
Voilà, maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est si ta fille va habiter avec toi, Serge, ou avec ton ex. Ça, c'est ce qu'on verra dans les épisodes à venir, puisque je suis sûr qu'il y a plein d'aventures qui nous attendent là-dessus.
Ah oui, ça va vraiment crescendo, c'est de pire en pire en mieux, ouais. En fait, c'est vrai, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que on passe d'une famille à une autre, parce qu'en fait, tous ces gens-là, nous, les couples, on se connaît par rapport aux enfants, c'est les enfants qui sont à l'école ensemble, et c'est eux qui vont...
créer la rencontre.
Et ça aussi, c'est hyper original. Je tiens d'ailleurs à remercier les auteurs Diane Clavier et Samantha Mazera, qui sont vraiment... excellente dans leur façon d'écrire, mais aussi dans la façon de travailler, puisqu'elle travaille avec nous, on s'appelle, on a vraiment on travaille tous en équipe, quoi.
Vos projets à côté de Fête des Gosses, Amel, la scène, un petit peu, pour 2020?
Oui, pour 2020, une pièce de théâtre qui arrive, je vous en dis pas, je suis en train de la monter. Je reviendrai vous en parler.
Oh, avec grand plaisir, le rendez-vous est pris. Mon cher Fred, toi tu tournes quasiment en permanence.
Oui, parce que moi, comme j'ai pas de famille, pas d'amis, ma famille, c'est ce métier, donc voilà, hein, j'ai malheureusement, voilà, donc, mais bon, je suis content de tourner. Je vais faire aussi du théâtre, et puis un projet de film, et puis j'espère la saison 2 de Fête des Gosses aussi, parce qu'on s'est tellement marré.
Timbo Cinéma en tant que réalisateur, ce coup-là ?
Non, pas en tant que réalisateur, en tant que jeune comédien. Voilà.
C'est bien, c'est très très bien. Mais tu sais que la porte est ouverte. Maintenant, tu sais comment on fonctionne. Ah ouais, tu sais comment est tournée. Voilà, notre voiture t'attend. On peut te trimballer un peu partout dans la région. Comme on a pu déjà le faire avec grand plaisir avec toi, en tout cas. Et promis, je t'amènerai à l'heure au train, ce coup-là.
Ah oui, oui. Ah oui, vraiment.
On a beaucoup rigolé. Non. Bon, en tout cas, on retrouve Fête des Gosses. Ça, c'est cette semaine sur France 2. C'est la suite. On ne la manque pas. Et on va, eh bien, rester aux côtés d'Anissa et Serge cette semaine pour découvrir la suite de leurs aventures. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
On va avoir un bébé. Vous allez être grande sœur.
À votre âge.
L'échographie a révélé que le placenta de votre femme était mal implanté.
Oui, donc elle risque d'accoucher prématurément.
Arrêtez. Arrêtez. Arnaud Vapali me demande de coucher avec lui à chaque fois que je le vois. J'ai failli le faire, tiens.
Comment est-ce que tu as pu hésiter? Comment est-ce que tu as pu être attirée par ce type?
J'étais perdue, je savais plus quoi faire.
Moi, vivant, je ne reste pas ici.
J'ai trouvé des informations sur tes vrais parents. Ils ont été déportés à Auschwitz.
Je voudrais revoir la maison de mes parents avant de tout oublier.
Bah bien sûr, évidemment, évidemment.
Allez, on va passer à vendredi dans nos coups de cœur télé. Là, on a un beau coup de cœur avec celui de César Wagner. C'est un nouveau personnage qui arrive sur France 2, aux prises avec, eh bien, on va dire sa folie un peu des virus, des médicaments, et on va en parler avec son héros. C'est Gilles Alma qui est justement avec nous et qui joue le rôle titre de César Wagner. Bonjour Gilles.
Coucou les copains.
Ça va bien mon Gilles ?
Bah ouais, super. Toujours avec toi, hein, tu sais.
Bon, une très belle année 2020 à toi, puisqu'on est sur notre deuxième émission de l'année, donc il est encore temps de te souhaiter une belle année pleine de beaux projets et surtout de beaux films.
Bonne année, ouais, bonne année, la santé, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie.
Alors César Wagner, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a séduit, qu'est-ce qui t'a fait y aller sur ce personnage, qu'est-ce que t'as aimé chez lui ?
Ah, écoute, voilà, c'est pas un flic habituel du tout, ça c'est cool, c'est vraiment cool. Déjà, c'est un mec qui est plein de sensibilité. Et qui s'investit corps et âme dans ses enquêtes, et qui se met à la place des gens, et donc il y a énormément de sensibilité. On fait souvent des flics un peu durs, un peu héros, on va dire, et là c'est pas du tout le cas. Et un truc qui est terrible qui lui arrive, c'est que il est hypochondriaque. Et donc quand tu travailles à la crime et que t'es censé voir des corps parfois en décomposition, et ainsi de suite, et ben là il y a quelques petits problèmes. Donc c'est vraiment un personnage qui a plein de failles qui sont hyper intelligentes pour construire des histoires complexes, quoi. Voilà.
Dès le départ, tu t'es dit voilà, tenir le rôle titre dans une série comme ça, avec carrément le nom de son personnage comme titre, est-ce que ça fait peur d'avoir un peu cette responsabilité sur les épaules, ou tu t'es dit voilà, c'est un challenge à relever et on y va?
Non, c'est un super challenge, effectivement, t'es en tête de gondole, donc si le truc foire, bon bah c'est quand même un peu de ta faute. À la fois, ça prouve aussi au métier que je peux tenir un 90 minutes et que je fais pas seulement rire, parce que les gens me connaissent souvent dans la série Nos chers voisins. Donc j'étais surtout là dans le sourcil et dans la déconne, donc là c'est pas du tout le cas. Donc c'est tout bénef, et puis c'est un bonheur, je travaillais avec une super équipe et tout, c'était top.
Alors, peux-tu nous parler un petit peu des personnes qui t'accompagnent au casting sur cette série ?
Ouais, écoute, on a un super binôme avec Olivia Côte qui fait la légiste. Alors elle qui est complètement l'inverse de moi, qui est très très open dans tous les sens du terme, elle a très envie, elle me dit ouvertement qu'elle a envie de baiser, hein, voilà, faut utiliser le terme. Donc moi je suis un peu je suis un peu réfractaire, parce que il faut savoir que comme je suis très très hypochondriaque, le simple fait d'embrasser quelqu'un, bah je pense au miasme, mais au microbe que je pourrais éventuellement ingérer, donc même ça reste compliqué pour moi. Et puis après, j'ai une équipe de flics autour de moi extra, il y en a plein, Coralie Russier, Soufiane Garab, j'ai en oublié, je m'excuse, j'ai Joséphine Demeau qui fait ma chef extra, qu'on a l'habitude aussi de voir au cinéma, et puis ma maman, Fanny Contenson, qui est une pointure aussi, donc je suis hyper bien entouré, j'ai beaucoup beaucoup de chance.
Est-ce que toi, t'as un côté un petit peu hypochondriaque? On a tous un peu un côté hypochondriaque, mais toi, à quel niveau il s'élève à titre personnel?
Ah non, moi je suis pas du tout hypochondriaque. Alors je fais dire, je me lave les mains et tout, surtout en ce moment, enfin ça commence à il y avait la gastro, mais je suis pas du tout hypochondriaque, donc c'est un vrai rôle de composition pour moi, ouais. Pas du tout, ouais.
Alors on peut parler un petit peu de tes souvenirs de tournage. Quelle a été ta scène la plus forte peut-être à tourner lors de ce film?
Alors il y a plein de super scènes. Moi ce que j'aime bien parce que je viens de là, c'est la comédie et il y a des et je pense que si ça marche, on en rajoutera un petit peu. C'est les scènes où justement je me retrouve nez à nez avec moi-même, avec mon hypocondrie et où ça fait des trucs un peu chelous. Il y a une scène où j'arrive ils ouvrent le corps, tu vois, à un moment il y a des recherches, voilà, faut aller voir là-dedans. Et donc j'arrive en retard, machin, et j'arrive là-dedans, donc t'imagines le mec hypocondriaque qui voit un mec s'ouvrir en deux. Donc il y a des trucs comme ça, il y a chez le Toubib aussi, j'ai l'impression d'avoir le même mal que ce qui a été diagnostiqué au mec qui est mort. Donc il y a plein de scènes rigolotes, tu vois, je suis chez le Toubib et j'ai l'impression de crever, le mec me dit faut aller voir un psy, et donc il y a plein de trucs rigolos comme ça, et je pense que les gens apprécieront ça, ce côté aussi comédie dans le polar.
Alors il y a déjà un deuxième épisode en écriture, hein?
Oui, tout à fait, ouais. Donc... Et ouais, j'espère qu'on verra.
Écoute, nous en tout cas, eh bien, on sera au rendez-vous et on invite tous nos auditeurs à être au rendez-vous vendredi à 21h05, juste après un si grand soleil sur France 2. Hein.
Ah ouais, vous soyez au rendez-vous, sinon je suis viré, donc là c'est réglé.
Bon, il reste la scène quand même, parce que mon Gilles, sur scène, ça pète hein, quand même, Gilles Alma sur scène, si ça passe près de chez vous, franchement ne le ratez pas. Alors qu'en est-il? Est-ce que tu prépares un nouveau spectacle et que le premier tourne toujours? Comment ça se passe?
Ouais, écoute, je fais une dernière date le 16 janvier, je fais une dernière date à l'Européen à Paris, et puis après je finis ma tournée en France, donc je crois que j'ai une petite dizaine de dates pour finir, et puis j'enchaîne avec un duo, avec un mec extraordinaire qui s'appelle Benoît Joubert, voilà, ça fait longtemps qu'on se tourne autour, je le produisais, c'est un super comique, il est du Sud-Ouest, et on va faire un gros duo là, on est en train de préparer ça, d'écrire, de tout peaufiner, de machiner, ça va faire très très mal, donc... Ça sera plus pour la rentrée, on va dire, la rentrée 2020.
La page de Cher Voisin, définitivement tournée, ou si on te proposait un prime événement ou exceptionnel pour fêter un anniversaire particulier, tu repartirais?
Écoute, franchement, alors oui, c'est fini, ça fait 2 ans et demi qu'on tourne plus. Je pense franchement pas qu'ils nous proposaient ça, parce que là, ça fait quand même un petit paquet de temps que c'est terminé. Et bon, il y a encore des diffs, mais moins sur TF1. Donc je pense pas qu'ils nous proposaient, mais pour les copains, je le ferai, ouais.
Et bien en tout cas, c'est 10h30, hein, tous les samedis matins, nos chers voisins continuent sur TF1 avec des rediffs, et c'est toujours pour notre plus grand plaisir, mon cher Gilles.
Ouais, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Ça continue le samedi matin, on peut vous revoir dans vos plus belles œuvres tous.
Oh bah merde, bah je vais regarder.
Bon mon Gilles, merci à toi en tout cas d'avoir été avec nous. On te retrouve dans César Wagner, c'est vendredi à 21h05 sur France 2, et on te souhaite tout le meilleur du monde pour cette année 2020.
Merci beaucoup, merci à toi.
À bientôt.
Ciao.
C'est vous qui avez découvert la victime?
Affirmatif. J'étais un des premiers sur zone. Je vous préviens, il fait une chaleur là-dedans. Hein. Le mec est mort depuis un paquet de temps. Hein. Je vous raconte pas l'état. Le type, il avait monté le chauffage à fond. Je crois que l'Afrique lui manquait. Hein.
Un étranger?
Ah non, un médecin. Humanitaire. Il rentrait du Congo, je crois.
C'est dans le coin le virus, Ebola?
Je sais pas. Et vous imaginez si c'est contagieux? Faudrait boucler le secteur, mettre des combinaisons, tout ça. Ben...
Du coup, je préviens de votre arrivée.
Capitaine?
J'ai oublié la commissariat.
Dans un instant, l'invité d'honneur, Laurie Bordesoul, qui joue le rôle d'Émilie Nebout dans Plus belle la vie, débarque dans Chute, on écoute la télé. Alors surtout, ne bougez pas, on revient juste après ça.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite.
Radio familiale et conviviale.
Style FM, donne la priorité au local.
Serait-ce juste dans ma tête, ou toi aussi, c'est dans la tienne. Mais chaque fois que je suis seule, je pense à toi, je sais c'est bête. J'y ai pensé en boucle, je te veux. Je me le cachais sans doute. Je te veux. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. Ou j'aimerais peut-être juste que tu me regardes comme tu me regardais hier. Sans qu'il nous regarde. C'est parfois.
fois. Je voulais pas le voir, je l'avais chanté déjà mais sans trop le savoir. Les échecs me font peur, je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur. J'y ai pensé en boucle, tu me plais. Je vais te le cacher sans doute, tu me plais. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. Ou j'aimerais peut-être juste que tu me regardes. J'ai peur d'être à deux. J'ai peur de te regarder. Et encore plus dans les yeux. Et cela je les évite. Ce regard qui m'invite. Même si au fond de moi j'hésite. Je brûle d'envie. Que tu me regardes.
Une seule envie, vous faire du bien.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Eh bien, Léon, continue, les semaines se succèdent. Et pour bien ces premières émissions de l'année, quelle chance nous avons après Régis Ménard qui a fait son retour la semaine dernière dans Plus belle la vie dans le rôle d'Éric Normand. Eh bien, nous avons Laurie Bordesoul qui est avec nous. Et c'est le rôle d'Émilie Nebout, Émilie Leroux. On ne sait pas trop d'ailleurs, hein, mais on va en discuter avec elle. Bonjour à toi, Laurie.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Et puis là, une charentaise de cœur, puisque là, voilà, ils sont venus chercher nos talents à Marseille. Et puis voilà, c'est pour la bonne cause, pour la reprise de ce très beau rôle d'Émilie, qu'il y avait très longtemps, qu'on n'avait pas vu, et qui a fait son grand retour, un retour fracassant, je dirais même, depuis maintenant bientôt un an.
Oui, c'est ça. Bah, au mois de mars, ça fera un an. J'ai repris le rôle au mois de mars. Et puis Émilie Leroux Nebout, mais plus souvent Nebout, parce que maintenant c'est rattaché à Patrick Nebout. Très très contente d'avoir repris ce rôle. C'est une très belle expérience de pouvoir tourner dans Plus belle la vie. C'est très formateur et puis surtout ce rôle que j'apprécie vraiment énormément. Je suis très contente d'être dans les baskets d'Émilie.
Comment t'es arrivée justement dans la série? Casting, hasard, rencontre? Est-ce qu'on peut dire que tu as été au bon endroit au bon moment?
Je revenais du tournage du Capitaine Marlowe, c'était en janvier, donc là pour le coup ça fait un an, et j'ai mon agent qui me dit j'ai un casting pour toi, c'est pour Plus belle la vie, j'étais d'accord, super. Et donc en fait le truc c'est qu'il y avait des trains qui étaient annulés, donc j'étais bloquée à Bordeaux, j'allais arriver en retard à mon casting, et j'étais genre non, quelle horreur, je veux le passer ce casting, enfin tous les castings évidemment. Et puis finalement j'ai réussi, on avait appelé la directrice de casting, je suis arrivée avec une heure de retard. Rien que le casting c'était différent, le casting de Plus belle la vie, c'était vraiment différent des autres castings parce qu'on avait des répétiteurs, j'avais jamais vu ça en casting, on avait des répétiteurs. Et donc j'ai bossé un petit peu en répétition. Ce qui est cool, c'est qu'on nous a donné quelques indications qu'on n'a pas forcément quand on travaille tout seul les castings. Et puis donc je passe le casting, première prise, elle me dit bah écoute super, parle un peu plus fort éventuellement. Je dis ouais ok, je parle un peu plus fort. Et puis en plus c'était une scène avec Kevin, je me souviens, à l'époque je savais pas moi qui était Kevin. J'étais loin de m'imaginer quel numéro c'était. Et puis ensuite elle me refait passer, on refait la même séquence, puis on en fait une autre, et puis elle me dit bah, écoute super, génial, on fait une petite vidéo de présentation et moi j'ai tout ce qu'il me faut. Puis voilà, on m'a rappelé, je me souviens, je suis sortie du casting et j'ai appelé ma mère et je me suis dit maman écoute, je dis rarement ça, hein. Maman écoute franchement là je pense que j'ai réussi mon casting, ça s'est vraiment bien passé. Et puis on m'a rappelé 3-4 jours après je crois en me disant que j'avais le rôle, ça s'est fait assez vite, très très vite, et j'étais aux anges, vraiment très contente.
Alors, une arrivée fracassante, hein, on s'en souvient encore, où que Théo Bertrand, qui joue Kevin, et Émilie était coincée, séquestrée. Enfin, ils se sont retrouvés tous les deux, puis ils se sont rapprochés. Et en fait, c'est l'histoire d'un couple improbable qui est né et qui aujourd'hui matche tellement bien à l'écran. On a senti une évolution non seulement dans le rôle de Théo, et puis une évolution aussi dans le rôle d'Émilie, surtout par rapport à l'Émilie qu'on a pu connaître avant dans la série, bien évidemment.
Oui, c'est vrai. En fait, moi, j'ai commencé à tourner avec Théo. Pendant très longtemps, en fait, j'ai tourné qu'avec lui, pratiquement. Un peu avec la famille Nebout, mais pas beaucoup. Et c'est vrai que c'était un régal, je pense, que pour arriver dans une série où il y a autant de comédiens, autant de monde. Et je pense que j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur un partenaire de jeu aussi gentil, aussi drôle et aussi bosseur que Théo. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup tourné ensemble au départ. Et finalement, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que l'évolution qu'on a pu voir pour Kevin et Emily a été un peu similaire pour Laurie et Théo. Enfin, pour Théo et moi. Je parle de moi, la troisième personne du singulier maintenant. Ouais, il y a eu ce petit truc-là, en fait, petit à petit, on se découvre. Et puis, bon, bah, pour Emily et Kevin, c'est une belle histoire d'amour. Et puis, pour Laurie et Théo, c'est une belle histoire d'amitié.
Alors, il y a une grande arche qui arrive, qui va être autour d'Emily. Dans les jours, là, qui arrivent, là, hein, c'est vraiment imminent. Où là, pendant 2 mois, tu es encore en train de la tourner d'ailleurs, cette arche-là. Mais pendant 2 mois, on va voir beaucoup Émilie.
Oui, c'est ça. Elle va être au centre de l'intrigue. Je peux pas en dire beaucoup, mais c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée. Parce qu'en fait, au départ, quand j'ai reçu le scénario, moi, quand j'ai lu l'intrigue, j'ai été vraiment très émue. Au fur et à mesure que je lisais, j'ai même versé ma petite larme. Et puis bah là, en tournant, il y a plusieurs séquences où, en sortant de la séquence, j'avais l'estomac bien noué. Et puis bah je peux le dire, hein, j'ai versé quelques larmes après 2-3 séquences qui étaient très émouvantes. C'est je peux pas en dire beaucoup parce que je veux pas spoiler, et puis parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant de découvrir au fur et à mesure, mais c'était
impliqué un peu tout son entourage, que ça soit le personnage de Kevin ou sa famille.
Oui, complètement. Oui, si. C'est ça, en fait. C'est autour d'Emily, mais ça va impliquer. Alors, elle va être bien bien entourée par sa famille et puis aussi par Kevin, évidemment. C'est très émouvant. C'est difficile d'en parler sans pouvoir vraiment le nommer.
En tout cas, c'est une deuxième belle grande arche pour toi en moins d'un an dans la série. Ça doit être une fierté, ça aussi.
Ça, complètement, vraiment. Quand on m'a proposé ça, j'étais très contente. Quand j'ai lu l'intrigue, je me suis dit waouh, il y a vraiment quelque chose à défendre. Enfin, il faut pouvoir en parler. C'est un fait. De toute façon, toujours dans Plus belle la vie, c'est toujours des sujets dont il est important de parler, je trouve. Et là, pour le coup, j'étais très contente de pouvoir en parler. Et c'est complètement à l'opposé de ce que je peux penser ou ressentir. Donc, il a fallu vraiment se mettre à parler et à défendre quelque chose pour le personnage, essayer de se mettre à sa place pour pouvoir le jouer au mieux, le ressentir au mieux. Et c'est ce que j'adore, en fait, hein, vraiment partir de soi. C'est toujours le cas, de toute façon on part toujours de soi quand on joue, mais aller chercher des choses beaucoup plus loin, beaucoup plus éloignées de nous-mêmes, c'est toujours très très intéressant dans la recherche et puis dans le jeu aussi, parce que forcément il y a des choses, comme je disais, hein, ça touche personnellement aussi. Bien sûr, faut savoir le tenir à distance, hein, pour pas affecter la vie au quotidien, mais ça bouleverse, quoi. Et là, pour le coup, ça m'a beaucoup touchée. J'aime beaucoup ce que le personnage a dû traverser. C'est beau aussi pour le couple. C'est beau aussi par rapport à toutes les scènes de famille. On a eu la chance là d'avoir des belles scènes en famille avec tous les Nebout. Je sais que les spectateurs raffolent de ces scènes-là, et nous aussi en tant que comédien, on adore tourner ces scènes-là. Quand j'ai tourné justement avec Jérôme et avec Marie, on se disait ça serait bien de pouvoir avoir plus de scènes où on est tous réunis, tous là. Parce que c'est génial, c'est les scènes que nous on prend plaisir à tourner, parce que c'est toujours très drôle. Il y a toujours Jérôme pour raconter des bêtises entre chaque.
Ça doit pas être le dernier, celui-là.
Ah non, c'est le premier. Je sais pas entre Jérôme et Théo lequel des deux est le premier, mais ouais non, c'est des belles séquences à venir, et puis c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur pour le coup.
Eh bien, qu'on va découvrir très très vite, en tout cas dans Plus belle la vie. Un conseil, regardez du lundi au vendredi à 20h25. Alors, il y a du théâtre aussi, puisque tu passes ta vie un peu dans les trains quand ils roulent, entre Paris et Marseille, puisque tu es au théâtre également du côté de Paris. Raconte-nous, dans un spectacle pour enfants notamment.
Exactement, j'ai écrit et mis en scène un spectacle pour enfants qui s'appelle Le Capitaine Crochet et Peter Pan, la rencontre. Alors, je ne joue pas dedans parce que je l'ai écrit, je le mets en scène. Je trouvais que c'était déjà deux grandes casquettes. Je suis chef de projet, donc ça fait déjà beaucoup à organiser. Plus les tournages à Marseille, c'est quasiment impossible de tout faire. En tout cas, moi, j'avais pas envie de tout faire. Et puis surtout, j'ai une super équipe, j'ai des comédiens en or, fantastiques, mes amis du cours Florent, on est un petit peu la bande de potes du cours Florent. C'est un spectacle pour enfants, mais aussi pour adultes, c'est un petit peu la particularité, on va dire pour petits et grands enfants. On avait envie de pouvoir toucher un public plus large. C'est vrai que souvent les parents sont un petit peu oubliés dans les spectacles pour enfants, et puis là on a essayé de faire en sorte que eux aussi puissent s'amuser avec leurs enfants justement.
Ça s'appelle comment ?
C'est le Capitaine Crochet.
On va le rappeler.
Ouais, le Capitaine Crochet et Peter Pan, la rencontre.
On peut retrouver ce spectacle, quel jour ? Est-ce qu'on a des jours particuliers où c'est joué ?
Alors, c'est joué au Théâtre de l'Alambic, dans le 18e, métro Simplon. Et c'est joué, alors c'est tous les samedis, dimanches, à 16h ou à 14h30. Des fois, ça alterne, mais en règle générale, le week-end, c'est 16h. Et sinon, pendant les vacances, c'est tous les jours. Ouais, à 14h30, là, pendant les vacances, ouais.
Eh bien, le rendez-vous est pris, bien évidemment. À quel moment t'as eu ce déclic de quitter ta Charente-Maritime natale pour te dire « je monte à Paris, je tente le cours Florent, je veux être comédienne » ? À quel moment c'est arrivé ? Toi qui as tourné déjà beaucoup dans la région Nouvelle-Aquitaine, t'as tourné Hôtel de la Plage, Cœur Océan, t'as tourné plein de choses déjà, plein de séries hyper connues et qui ont été tournées chez nous dans les Charentes. Alors qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là ?
C'était très dur de quitter la Charente-Maritime parce que j'y suis très bien, parce que j'ai ma famille aussi ici, je suis très famille. C'est un truc que je partage avec Émilie, ça, pour le coup. Je suis partie d'abord à Poitiers pour faire une licence art du spectacle, spécialité théâtre. Et je suis partie parce que j'étais amoureuse. Je suis une grande amoureuse. Donc j'ai suivi mon copain qui était là-bas. Et en fait, j'ai adoré mes études. C'était la première fois où j'avais pas besoin de beaucoup travailler pour y arriver. Alors que, enfin, je travaille beaucoup en règle générale. Hein. Mais là, c'était quelque chose de fluide. Cinéma, théâtre, c'était... il y avait une sorte d'instinct, il y avait quelque chose où ça allait tout de suite beaucoup plus vite et ça me plaisait vraiment beaucoup. Il y avait tout dès la deuxième année, en plus j'ai eu de la chance dans cette licence, dès la deuxième année on a eu pas mal de pratiques, donc j'ai pu quand même me confronter un peu à la mise en scène, à la création, à l'écriture de texte, ça me plaisait déjà beaucoup. Et donc suite à la licence, je voulais faire un master à Paris et en fait finalement j'ai fait un stage complètement par hasard, un stage que j'ai offert à ma cousine qui elle aussi aime beaucoup jouer. Donc on a fait ce stage toutes les deux à Paris, donc un stage au cours Florent. On s'est régalé. En fait, on savait pas du tout que c'était un stage pour accéder au cours Florent. En fait, on pensait que c'était un stage d'été comme ça. Et en fait, c'était un stage d'accès au cours Florent. On l'a toutes les deux été acceptées. Donc au départ, le plan, c'était de finir. Donc moi, je finissais ma licence. Et puis ensuite, on partait à Paris toutes les deux. Donc c'était une force d'être à deux pour le coup. Et puis finalement, elle est partie avec son chéri en Australie. Donc je me suis retrouvée avec mes valises à me dire « bon, qu'est-ce que je fais ?» Et puis finalement, je me suis dit « non, vas-y, t'as tellement envie de faire ça depuis longtemps. Paris, c'était un rêve, mais c'était quelque chose de qui me faisait un peu peur aussi. C'était la grande ville, moi je viens de la campagne et j'y suis bien dans ma campagne. » Et donc ouais, c'était un gros challenge. Et finalement, je suis allée toute seule pour le coup. Et j'ai pas regretté parce que j'ai adoré le cours Florent. J'ai vraiment vécu 3 années merveilleuses où j'ai rencontré tous les potes avec qui je bosse là au théâtre en ce moment. J'ai eu des profs formidables, vraiment, qui m'ont vraiment beaucoup aidée à libérer des choses et puis même à ne pas avoir peur justement. Enfin, c'était vraiment super. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le cours Florent.
En tout cas, on va te retrouver donc dès cette semaine dans Plus belle la vie, une grande arche qui commence autour d'Émilie. Émilie Nebout, la famille Nebout va être au cœur de l'intrigue principale qui nous arrive pour les 2 mois à venir. Merci à toi Laurie d'avoir été avec nous. T'es la bienvenue quand tu veux, tu le sais, et puis on espère vite te retrouver dans notre région en tout cas pour d'autres aventures aussi.
Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. À très vite.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Eh bien, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, eh bien, nous allons avoir le plaisir de vous consacrer une émission spéciale Festival de l'Alpe d'Huez avec toute une partie de l'émission consacrée au festival, mais aussi un coup de cœur ciné consacré au film Cas Contraire qui sortira, eh bien, justement le 22 janvier au cinéma. Sarah Marx, la réalisatrice, et Sandrine Bonner seront nos invités exceptionnels pour en parler avec nous. Nous reparlerons également de la série Fête des Gosses et plein d'autres surprises évidemment à ne pas manquer. Pour les suivre, c'est direction nos réseaux sociaux tout de suite sur notre page Facebook Chute on écoute la télé et poursuivre nos aventures au Festival de l'Alpe d'Huez tout au long de la semaine.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé.
Sans oublier vos applications sur Android et iPhone, Chute on écoute la télé. Moi je vous retrouve dès demain à 13h45 pour vos quotidiennes sur Style FM. Et puis bien sûr la grande hebdo de Chute on écoute la télé, c'est lundi prochain dès 17h. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à demain.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente dans la Vienne sur mariemorin.fr.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier régional, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente dans la Vienne sur langélis.com.